Je lis pour vous.
Lecture vagabonde de Hélène Vignon sur Radio Alliance Plus. Lire, un plaisir qui se partage.
Hélène Vignon pour Radio Alliance Plus. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Avec plaisir, je commence à lire aujourd'hui un nouveau livre. Il s'agit de « Le cerf-volant » de Laetitia Colombani aux éditions Grasset dans le livre de poche. Dans mon émission « Je lis pour vous », j'ai déjà lu des livres de notre amie Laetitia Colombani, une écrivaine que j'aime beaucoup et que j'ai déjà lu. Nous commençons aujourd'hui le livre « Le cerf-volant » avec ceci. Cinéaste, scénariste, comédienne et romancière, Laetitia Colombani est l'auteur de « La tresse », vendue à plus de 2 millions d'exemplaires dans le monde, traduit en 40 langues et couronnée d'une vingtaine de prix littéraires. Le roman est actuellement en cours d'adaptation pour le grand écran. Les Victorieuses, son deuxième livre, devrait être bientôt adapté en série. Elle est également l'auteur des albums jeunesse « La tresse ou le voyage de Lalita » et « Les Victorieuses ou le palais de Blanche » illustrés par Clémence Paulet. Comme je disais, j'ai déjà lu ses livres et aujourd'hui, nous parlons du cerf-volant. Dans ce troisième livre, voici ce qu'il nous en est dit. Brisée par un drame personnel, Léna abandonne la France et son poste d'enseignante pour partir en Inde, au bord du golfe du Bengale. Un matin, alors qu'elle nage dans l'océan, elle manque de se noyer. Une fillette qui jouait au cerf-volant court chercher de l'aide. Comment la remercier ? Âgée de 10 ans, la petite travaille dans un restaurant et ne sait ni lire ni écrire. Entourée d'un groupe de filles du village et de leur chef, la tumultueuse Pretty, Léna se lance dans un incroyable projet. Fonder une école pour tous les enfants du quartier qui en sont privés. Au cœur d'une Inde tourmentée, commence une aventure où se mêlent l'espoir et les désillusions, la volonté face aux traditions et le rêve de changer la vie par l'éducation. Je suis moi-même allée en Inde et je dois dire que ce livre m'a beaucoup touchée. Lire ce texte me donne vraiment l'impression d'être de nouveau dans ce pays. C'est peut-être un nouveau roman, mais il véhicule une triste réalité qui est encore aujourd'hui vivante. Alors nous allons de suite commencer la lecture qui va, je suis sûre, vous intéresser. Dédicace à Jacques, aux enfants du désert du Thar, à ma mère qui a passé sa vie à enseigner, à la mémoire de Dani, partie rejoindre les cerfs-volants dans le ciel. Ne marche pas devant moi, je ne te suivrai pas. Ne marche pas derrière moi, je ne te guiderai peut-être pas. Marche à côté de moi, et sois simplement mon ami, signé Albert Camus. Le malheur est grand, mais l'homme est plus grand que le malheur. Rabindranath Tagore. Prologue. Village de Mahabalipuram, district de Kankipuram, Tamil Nadu, Inde. Léna s'éveille avec un sentiment étrange. Un papillon dans le ventre. Le soleil vient de se lever sur Mahabalipuram. Il fait déjà chaud dans la cahute adossée à l'école. Selon les prévisions, la température devrait avoisiner 40 degrés au plus fort de la journée. Léna a refusé d'installer l'air conditionné. Les habitants du quartier n'en sont pas équipés. Pourquoi la sienne ferait-elle exception ? Un simple ventilateur brasse l'air suffocant de la pièce. La mer, toute proche, n'offre qu'un souffle chargé, une haleine fétide où l'odeur âcre de poissons séchés corrompt celle des embruns. une rentrée caniculaire sous un ciel de plomb. C'est ainsi dans cette région du monde, l'année scolaire commence en juillet. Les enfants ne vont pas tarder à arriver. À 8h30 précise, ils passeront le portail, traverseront la cour, s'élanceront vers l'unique salle de classe, un peu gauche dans leur uniforme flambant neuf. Ce jour, Léna l'a attendu, espéré mille fois imaginé. Elle songe à l'énergie qu'il lui a fallu déployer pour mener à bien ce projet, un projet fou, insensé, né de sa seule volonté. Comme une fleur de lotus sort de la vase, la petite école s'est épanouie à la périphérie de cette ville côtière que d'aucuns nomment encore village. Des milliers de personnes s'entassent ici au bord du golfe du Bengale, entre les temples ancestraux et la plage où se mêlent indifféremment vaches, pêcheurs et pèlerins. Avec ses murs peints et sa cour déployée autour d'un unique arbre, un grand banyan, la bâtisse n'offre rien d'ostentatoire. Elles se font humblement dans le paysage. Nul ne peut deviner que son existence relève du miracle. Léna devrait se réjouir, accueillir cet instant comme on célèbre une fête, une victoire, un accomplissement. Pourtant, elle n'arrive pas à se lever. Son corps est lourd, plombé. Cette nuit, ses fantômes sont revenus la hanter. Elle s'est tournée maintes fois dans son lit avant de sombrer dans un sommeil de surface où se sont entremêlés présent et passé. Elle a revu ses années d'enseignante avec leur lot de fiches à remplir, de listes de fournitures, de cours à préparer. Elle aimait l'effervescence de la reprise après les longues vacances d'été. L'odeur des protège-cahiers lisses et neufs, les crayons, les feutres venant gonfler le cuir souple des trousses, les agendas immaculés, les tableaux fraîchement nettoyés, lui procuraient une indicible joie, la certitude réconfortante d'un éternel recommencement. Elle se revoit à la maison, dans les couloirs du collège, active, empressée. Le bonheur était là, tapis dans ces infimes instants du quotidien, dont la régularité lui offrait le sentiment d'une existence immuable, protégée. Qu'elle paraît loin, sa vie d'alors. À l'évocation de ses souvenirs, Léna se sent glisser dans un océan d'angoisse dont elle ne sait comment se libérer. Le doute l'assaille soudain. Que fait-elle ici, au fin fond du sous-continent indien, à des années-lumière de chez elle? Quel étrange caprice du sort l'a menée dans ce village au nom imprononçable où rien ne l'attendait, où l'existence est aussi âpre et rugueuse que les mœurs de ses habitants? Qu'est-elle venue chercher? L'Inde l'a dépossédée de ses repères comme de ses habitudes, de ses certitudes. Dans ce monde nouveau, elle a cru dissoudre sa peine. Humaine tentative, pauvre rempart qu'elle a voulu opposer au malheur, comme on construit un château de sable au bord d'une mer déchaînée. La digue n'a pas tenu. Le chagrin la rattrape, lui colle à la peau comme ses vêtements trempés dans la moiteur d'été. Il lui revient intact en ce jour de rentrée. Dans son lit, elle entend les premiers élèves approchés. Ils se sont levés tôt, fébriles. De cette journée, ils se souviendront toute leur vie. Ils se bousculent déjà en entrant dans la cour. Léna est incapable de bouger. Elle s'en veut de cette désertion. Faillir maintenant, après s'être tant battue. Quelle déconvenue! Il en a fallu du courage, de la patience et de la détermination dans cette entreprise. Créer les statuts, obtenir les autorisations n'a pas suffi. Dans sa naïveté toute occidentale, Léna s'était figuré que les habitants du quartier s'empresseraient d'envoyer leurs enfants à l'école, trop heureux de leur offrir l'éducation que la société leur avait jusqu'alors refusée. Elles ne s'attendaient pas à devoir déployer tant d'efforts pour les convaincre. Du riz, des lentilles et des chapatis, les pains traditionnels indiens sans levain, furent ses meilleurs alliés. « Ici, ils seront nourris », a-t-elle promis. Des estomacs remplis, un argument de poids pour des familles souvent nombreuses et affamées. Dans le village, les femmes ont jusqu'à 10 ou 12 enfants. Pour certains, la négociation s'est révélée plus ardue. « Je t'en donne une, mais je garde l'autre », a répondu l'une des mères en désignant ses filles. Léna a vite compris quelle triste réalité se cachait sous ces mots. Ici, les petits travaillent comme les aînés. Ils sont source de revenus. Ils triment dans les moulins à riz, dans la poussière et le bruit assourdissant des broyeurs, dans les ateliers de tissage, les sites de briques à four, les mines, les fermes, les plantations de jasmin, de thé, de noix, de cajou, les verreries, les usines d'allumettes, de cigarettes, les rizières, les décharges à ciel ouvert. Ils sont vendeurs, cireurs de chaussures, mendiants, chiffonniers, ouvriers agricoles, tailleurs de pierre, conducteurs de vélo-taxi. Si Léna le savait en théorie, elle en a pris toute la mesure en s'installant ici. L'Inde est le plus grand marché de main-d'œuvre enfantine au monde. Elle a vu des reportages sur ces manufactures de la Carpet Belt dans le Nord, où les enfants sont entraînés au métier à tisser et travaillent jusqu'à 20 heures par jour toute l'année. Un esclavage moderne qui broie les couches les plus pauvres de la société. La communauté des intouchables est la principale concernée. Jugés impurs, ils sont asservis depuis la nuit des temps par les castes dites supérieures. Les plus jeunes n'échappent pas à la règle, contraints de seconder leurs aînés dans les tâches les plus ingrates. Léna a vu des enfants au fond des cahutes du village, rouler des bidis. Les bidis, ce sont des cigarettes de tabac roulées dans des feuilles d'ébène de coromandel. Léna a vu des enfants au fond des cahutes du village rouler des bidis entre leurs doigts fluets, de l'aube jusqu'à la nuit tombée. Bien sûr, les autorités démentent ces pratiques. Officiellement, la loi interdit le travail des mineurs de moins de 14 ans, mais elle prévoit une exception notable. S'ils sont employés dans le cadre d'une entreprise familiale, une petite clause qui concerne la majorité des enfants exploités. Quelques lignes pour des millions de gosses à l'avenir amputés. Les filles sont les premières victimes de ce travail forcé. Contraintes de rester à la maison, elles s'occupent de leurs frères et sœurs, cuisinent, vont chercher de l'eau, du bois, font le ménage, la vaisselle, la lessive, tout au long de la journée. Face aux parents, Léna n'a pas démérité. Elle s'est lancée dans d'invraisemblables pourparlers, jurant de rembourser en riz l'équivalent du salaire de chaque enfant, afin de combler le manque à gagner de la famille. L'avenir d'un gosse contre un sac de riz, un étrange marchandage auquel elle s'est livrée sans scrupule. Tous les moyens sont bons, s'est-elle dit. Dans la lutte pour l'éducation, tous les coups sont permis. Elle s'est révélée têtue, farouchement obstinée. Et les enfants sont là aujourd'hui. Inquiets de ne pas la voir dans la cour, l'un d'eux s'avance vers la cahute aux rideaux fermés. Tous savent qu'elle habite ici, dans cet appendice de l'école qui lui sert à la fois de chambre et de bureau. Il doit penser qu'elle n'est pas réveillée et il tambourine à la porte en criant l'un des seuls mots d'anglais qu'il ait appris « School! School !» Et ce cri soudain est comme un appel, un hymne à la vie. Ce mot Léna le connaît bien. Elle lui a consacré 20 ans. D'aussi loin qu'il lui en souvienne, elle a toujours voulu enseigner. « Plus tard, je serai maîtresse », affirmait-elle enfant. Un rêve ordinaire, diraient certains. Son chemin l'a pourtant mené loin des sentiers battus, jusqu'à ce village du Tamil Nadu, entre Chennai et Pondichéry, dans cette cahute où elle est allongée. « Tu as le feu sacré ?» avait dit l'un de ses professeurs à l'université. Si Léna reconnaît que ses années d'enseignement ont érodé son ardeur et son énergie, ses convictions restent inchangées. L'éducation, comme arme de construction massive, elle y croit. Les enfants ont tout sauf ce qu'on leur enlève, écrivait Jacques Prévert. Cette phrase l'a guidée durant cette odyssée, tel un mantra. Léna veut être celle qui rendra à ses gosses ce qu'on leur a pris. Elle les imagine parfois entrer à l'université, devenir ingénieur, chimiste, médecin, instituteur, comptable ou agronome. Lorsqu'ils auront reconquis ce territoire qu'on leur a si longtemps interdit, elle pourra dire à tous, au village, « Regardez ces enfants, un jour ils dirigeront le monde ». Et il n'en sera que meilleur, car il sera plus juste et plus grand. Il y a une forme de candeur dans cette pensée, et de l'orgueil bien sûr, mais aussi de l'amour, et plus que tout, la foi en son métier. « School, school !» Le gamin continue de crier, et ce mot est comme un affront à la misère, un grand coup de pied balayant les castes millénaires de l'Inde, rebattant les cartes de la société. Un mot en forme de promesse, un laissez-passer pour une autre vie. Plus qu'un espoir, un salut. Léna le sait, à l'instant même où ses enfants passeront la porte de l'école, à la minute où ils pénétreront entre ses murs, la vie cessera de leur être hostile et s'ouvrira sur une certitude. L'éducation est leur seule chance de s'affranchir du sort auquel leur naissance les a condamnés. School, ce mot est une flèche qui l'atteint en plein cœur. Il la ranime, balaye les angoisses du passé, la ramène au présent. En lui, elle puise la force de se lever. Léna s'habille, sort de la cahute et découvre un spectacle qui la saisit. La cour pleine d'élèves, en train de jouer autour du banyan. Ils sont beaux, avec leurs yeux noirs de jais, leurs cheveux ébouriffés et leurs sourires édentés. Cette image, Léna voudrait la capturer, la garder pour toujours sur l'écran de ses pensées. La petite fille est là, elle aussi. Elle se tient droite et fière au milieu de l'agitation et du bruit. Elle ne prend part ni aux jeux ni aux discussions. Elle est là, simplement, et sa présence justifie à elle seule tous les combats de ces derniers mois. Léna observe son visage, ses cheveux tressés, sa silhouette menue dans cet uniforme d'écolière qu'elle arbore tel un étendard, cette tenue qui n'est pas seulement un morceau de tissu, mais une victoire. Le rêve d'une autre qu'elles réalisent ensemble aujourd'hui. Léna fait signe à l'enfant. La petite s'avance vers la cloche et l'agite vigoureusement. Il y a dans ce geste plus que de l'énergie, une forme d'affirmation de soi, une confiance nouvelle en l'avenir qui bouleverse Léna. Le tintement résonne dans l'air clair du matin, les jeux et les cris s'interrompent. Les élèves se dirigent vers la salle au mur blanc, franchissent la porte, s'assoient sur les tapis, saisissent les livres et les cahiers que Léna leur tend. Ils lèvent les yeux vers elle et soudain, le silence se fait. Un silence si profond que l'on pourrait entendre un insecte voler. Dans le ventre de Léna, le papillon accélère la cadence. Elle prend alors une grande inspiration. Et la leçon commence. Première partie, la petite fille sur la plage. Chapitre 1. Deux ans plus tôt. Malgré l'heure tardive, la touffeur l'assaille dès la descente d'avion. Léna débarque sur le tarmac de l'aéroport de Chennai, où des dizaines d'employés s'activent déjà dans l'obscurité, vidant les flancs de l'appareil qui vient de se poser. Les traits chiffonnés par un interminable voyage, elle passe la douane, récupère ses bagages, quitte le vaste hall climatisé pour franchir les portes vitrées. Elle pose un pied dehors et l'Inde est là, tout entière devant elle. Le pays lui saute à la gorge comme un animal enragé. Léna est immédiatement saisie par la densité de la foule, le bruit, les klaxons qui résonnent, les embouteillages au milieu de la nuit. Cramponnée à ses sacs, elle est interpellée de toutes parts, sollicitée par mille mains sans visage qui la grippent, lui proposent un taxi, un rickshaw, tente de s'emparer de ses bagages contre quelques roupies. Elle ignore comment elle se retrouve à l'arrière d'une voiture cabossée dont le conducteur tente en vain de refermer le coffre avant de l'abandonner grand ouvert et se lance dans une logorée mêlant indifféremment tamoul et anglais. « Super driver !» répète-t-il à l'envi, tandis que Léna jette des regards inquiets en direction de sa valise qui menace de tomber à chaque virage. Elle observe, sidérée, la circulation dense, les vélos slalomant entre les camions, les deux roues sur lesquelles sont juchés trois ou quatre passagers, adultes, vieillards ou enfants, sans casque, cheveux au vent, les gens assis sur le bas-côté, les vendeurs ambulants, les groupes de touristes agglutinés devant les restaurants, les temples anciens et modernes décorés de guirlandes, les échoppes délabrées devant lesquelles errent les mendiants. Le monde est partout, se dit-elle, au bord des routes, dans les rues, sur la plage que le taxi entreprend de longer. Léna n'a jamais rien vu de semblable. Elle est happée par ce spectacle qui l'étonne autant qu'il l'effraie. Le chauffeur finit par s'arrêter devant sa guest house, un établissement sobre et discret, bien noté, sur les sites de réservation en ligne. L'endroit n'a rien de luxueux, mais il offre des chambres avec vue sur la mer. C'est l'unique exigence de Léna, sa seule nécessité. Partir, prendre le large. L'idée s'est imposée à elle comme une évidence par une nuit sans sommeil. Se perdre loin pour mieux se retrouver. Oublier ses rituels, son quotidien, sa vie bien réglée. Dans sa maison silencieuse, où chaque photo, chaque objet lui rappelle le passé, elle craignait de se figer dans la peine comme une statue de cire au milieu d'un musée. Sous d'autres cieux, d'autres latitudes, elle reprendra son souffle et pansera ses blessures. L'éloignement se révèle parfois salutaire, songe-t-elle. Elle sent qu'elle a besoin de soleil, de lumière, besoin de la mer. L'Inde, pourquoi pas? François et elle s'étaient promis de faire ce voyage, mais le projet s'est perdu comme tant d'autres que l'on forme et que l'on oublie faute de temps, faute d'énergie, de disponibilité. La vie a filé avec son cortège de cours, de réunions, de conseils de classe, de sorties de fin d'année, tous ces moments dont la succession a pleinement occupé ses journées. Elle n'a pas vu le temps passer, entraînée par le courant, cette ébullition du quotidien qui l'a absorbée tout entière. Elle a aimé ces années denses et rythmées. Elle était alors une femme amoureuse, une enseignante investie, passionnée par son métier. La danse s'est arrêtée brutalement un après-midi de juillet. Il lui faut tenir bon, résister au néant, ne pas sombrer. Son choix s'est porté sur la côte de Coromandel, au bord du golfe du Bengale, dont le nom est à lui seul une promesse de dépaysement. On dit que les levers de soleil sur la mer y sont de toute beauté. François rêvait de cet endroit. Parfois, Léna se ment. Elle se raconte qu'il est parti là-bas et l'attend sur la plage au détour d'un chemin ou de quelques villages. Il est si doux d'y croire, si doux de se méprendre. Hélas, l'illusion ne dure qu'un instant et la douleur revient comme le chagrin. Un soir, mu par une impulsion, Léna réserve un billet d'avion et une chambre d'hôtel. Ce n'est pas un acte irréfléchi, plutôt un élan qui obéit à un appel, une injonction échappant à la raison. Les premiers jours, elle sort peu, elle lit, se fait masser, boit des tisanes au centre de soins ayurvédiques de l'établissement, se repose dans le patio arboré. Le cadre est agréable, propice à la détente, le personnel attentif et discret. Mais Léna ne parvient pas à se laisser aller, à endiguer le flot de ses pensées. La nuit, elle dort mal, fait des cauchemars, se résout à prendre des cachets qui la rendent somnolente tout au long de la journée. À l'heure des repas, elle reste à l'écart. Elle n'a nulle envie de subir la conversation forcée des autres clients, d'entretenir des échanges de surface dans la salle à manger, de répondre aux questions qu'on pourrait lui poser. Elle préfère rester dans sa chambre, commander un plateau qu'elle picore sans appétit sur un coin de lit. La compagnie des autres lui pèse autant que la sienne, et puis elle ne supporte pas le climat. La chaleur l'indispose, comme l'humidité. Elle ne participe à aucune excursion, aucune visite des sites de la région, pourtant prisée des touristes. Dans une autre vie, elle aurait été la première à compulser les guides de voyage, à se lancer dans une exploration approfondie des environs. La force lui manque aujourd'hui. Elle se sent incapable de s'émerveiller devant quoi que ce soit, d'éprouver la moindre curiosité pour ce qui l'entoure, comme si le monde s'était vidé de sa substance et n'offrait plus qu'un espace vide, désincarné. Un matin, elle quitte l'hôtel à l'aube et fait quelques pas sur la plage encore déserte. Seuls, des pêcheurs s'activent entre les barques colorées, rafistolant leurs filets qui forment de petits tas vaporeux à leurs pieds, semblables à des nuages mousseux. Léna s'assoit sur le sable et regarde le soleil se lever. Cette vision l'apaise étrangement, comme si la certitude de l'imminence d'un jour nouveau la délivrait de ses tourments. Elle ôte ses vêtements et entre dans l'eau. La fraîcheur de la mer sur sa peau la rassérène. Il lui semble qu'elle pourrait nager ainsi à l'infini, se dissoudre dans les vagues qui la bercent doucement. Elle prend l'habitude de se baigner, alors que tout dort encore autour d'elle. Plus tard dans la journée, la plage devient cet espace grouillant de monde où se pressent des pèlerins s'immergeant tout habillés, des occidentaux avides de photos, des vendeuses de poissons frais, des camelots, des vaches qui les regardent passer. Mais à l'aube, nul bruit ne vient troubler les lieux. Vierge de toute présence, ils s'offrent à Léna tel un temple en plein air, un havre de paix et de silence. Une pensée la traverse. Quelquefois, tandis qu'elle gagne le large, il suffirait de pousser un peu plus loin, de demander à son corps épuiser un ultime effort. Il serait doux de se fondre dans les éléments sans bruit. Elle finit pourtant par rejoindre la rive et remonte à l'hôtel où le petit déjeuner l'attend. De temps en temps, elle aperçoit un cerf-volant près de la ligne d'horizon. C'est un engin de fortune, maintes fois rapiécé. Il est tenu par une enfant. Elle est si frêle et si menue qu'on dirait qu'elle va s'enfoler, cramponner à son fil de nylon comme le petit prince à ses oiseaux sauvages sur cette illustration de Saint-Exupéry que Léna aime tant. Elle se demande ce que la gosse fait là, sur cette plage, à l'heure où seuls les pêcheurs sont levés. Le jeu dure quelques minutes, puis la petite fille s'éloigne et disparaît. Ce jour-là, Léna descend, comme de coutume, les traits tirés par l'insomnie, un état auquel elle s'est habituée. En elle, la fatigue s'est installée. Elle est ce picotement autour des yeux, ce malaise vague qui la prive d'appétit, cette lourdeur dans les jambes, cette sensation de vertige, ce mal de tête persistant. Le ciel est clair, d'un bleu qu'aucun nuage ne vient troubler. Lorsqu'elle tentera par la suite de reconstituer le fil des événements, Léna sera incapable d'en retracer le cours. A-t-elle présumé de ses forces ? Ou délibérément ignorer le danger de la marée montante, le vent qui venait de se lever dans l'aube naissante. Alors qu'elle s'apprête à rentrer, un courant puissant la surprend, la ramène vers le large. Dans un réflexe de survie, elle essaye d'abord de lutter contre l'océan. Vaine tentative. La mer a vite raison de ses efforts. Du maigre capital d'énergie que des nuits sans sommeil ont largement entamé. La dernière chose que Léna distingue avant de sombrer, c'est la silhouette d'un cerf-volant flottant dans un coin du ciel au-dessus d'elle. Lorsqu'elle rouvre les yeux sur la plage, un visage d'enfant lui apparaît. Deux prunelles sombres la fixent ardente, comme si par l'intensité de ce regard, elle tentait de la ramener à la vie. Des ombres rouges et noires s'agitent, échangent des interjections affolées dont Léna ne saisit pas le sens. L'image de l'enfant se brouille dans le tumulte général avant de s'évanouir tout à fait au milieu de l'attroupement en train de se former. Chapitre 2. Léna s'éveille dans un décor blanc et brumeux, une grappe de jeunes filles penchées sur elle. Une femme âgée entreprend de les disperser comme on chasserait des mouches. « Vous êtes à l'hôpital !» clame-t-elle dans un anglais matiné d'un fort accent indien. « C'est un miracle que vous soyez en vie !» poursuit-elle. « Les courants sont puissants par ici, les touristes ne se méfient pas !» Il y a beaucoup d'accidents. Elle l'ausculte avant de conclure d'un ton rassurant. Plus de peur que de mal, mais on vous garde en observation. À cette annonce, Léna manque défaillir à nouveau. Je me sens bien, ment-elle. Je peux sortir. À dire vrai, elle est épuisée. Tout son corps lui fait mal. Comme si on l'avait rouée de coups, comme si elle était passée à travers l'essoreuse d'une machine à laver. Ses protestations restent vaines. « Reposez-vous !» lance l'infirmière en guise de conclusion en l'abandonnant dans son lit. « Se reposer ? Ici ?» La recommandation ne manque pas d'ironie. L'hôpital est aussi animé qu'une autoroute indienne en milieu de journée. Des patients attendent, agglutinés dans le couloir voisin, d'autres sont en train de manger, d'autres encore invectivent le personnel soignant qui paraît débordé. Juste à côté, dans la salle de soins, une jeune femme s'énerve contre un médecin qui tente de l'examiner. Près d'elle se tient le groupe de filles qui s'agitait au chevet de Léna. Adolescentes pour la plupart, elles sont vêtues à l'identique d'un saloir kameez, c'est-à-dire une tunique indienne sur un pantalon ample. Il est de couleur rouge et noir. Elles semblent obéir à l'autorité de la jeune femme qui, pressée de s'en aller, entreprend de dégrafer le tensiomètre à son bras. Aux grandes dames du médecin, elle ne tarde pas à filer, suivie de sa troupe qui lui emboîte le pas. Léna les regarde s'éloigner, intriguée. Qui sont ces filles? Que font-elles là? C'est la Red Brigade, indique l'infirmière. Ce sont elles qui vous ont secouru. Elles s'entraînaient près de la plage quand une gosse est venue les chercher. Léna reste interdite. De l'événement, elle ne se souvient pas ou si peu. Des images lui apparaissent dans le désordre comme tirées d'un film dont on aurait mélangé les bobines. Elle revoit le cerf-volant dans le ciel, le visage d'une enfant penchée sur elle. Sans plus de commentaires, l'infirmière sort de sa blouse un morceau de papier qu'elle lui tend. Il s'agit d'un mantra. « Quand vous sortirez, allez au temple remercier Shiva », souffle-t-elle. « En général, on offre des fleurs ou des fruits ou quelque chose de précieux. Certains donnent même leurs cheveux. » « Drôle d'idée !» songe Léna, qui n'a pas la force de protester, ni le courage d'expliquer qu'elle ne croit plus en rien, ni en Dieu, ni en quoi que ce soit. Elle saisit docilement le mantra avant de sombrer dans les limbes d'un sommeil agité. Léna, après de mauvais souvenirs, va enfin pouvoir donner de l'aide à des enfants en Inde. Supposée ouvrir une école qu'elle a voulu créer, le premier jour ne commence pas aussi bien qu'elle avait prévu, et les souvenirs tristes l'ont assaillie. Si l'enfant au cerf-volant n'était pas intervenu, si ce groupe de la Red Brigade ne l'avait pas secouru, elle ne serait pas là, pour en parler encore moins, pour créer son école. Notre prochaine lecture du livre « Le cerf-volant » de Laetitia Colombani aux éditions Grasset. Ce livre nous en reparlera. Et Laetitia Colombani nous expliquera comment cela a pu être possible. Écoutez donc Radio Alliance Plus, 103.2 FM et DAB+, en direct les mardis et mercredis 21h30 avec rediffusion les lundis et mardis à 6h, à moins que vous ne préfériez les podcasts sur le site www.radioallianceplus.fr. À bientôt pour la suite de l'histoire.